Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, nous abordons encore une fois la parole de Dieu et nous étudions de Pierre, chapitre 1. Nous avons récemment commencé notre étude de cette deuxième épître de Pierre. Nous ne faisons que commencer réellement. Nous sommes encore à l'introduction. Quand nous parvenons à 2 Pierre, chapitre 1, encore une fois, je veux que nous passions du temps sur le verset 2. Laissez-moi vous le lire, et ensuite je voudrais faire une digression pendant un bien long moment, et ensuite nous y reviendrons. Je pense que vous comprendrez son sens quand je reviendrai dessus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Maintenant, le mot-clé de ce verset est connaissance. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Notre précieuse foi est bâtie sur la connaissance de la vérité et sur la connaissance de la source de la vérité. Maintenant, vous pourriez vous dire que c'est plutôt évident et c'est vrai. Mais c'est assez surprenant que cela ne semble pas si évident pour chacun de nos jours. En fait, de nos jours, il semble que ce soit très obscur. Je vais vous montrer pourquoi. Un sujet récent de la Revue Nationale, il y a un article intitulé « Le paganisme à l'américaine », rédigé par John Vogue. Voilà ce qu'il dit. Le mouvement du Nouvel Âge ne consiste pas à découvrir la réalité, mais à la fabriquer. Il s'agit plus de la puissance que de la vérité. Fin de citation. C'est une affirmation très profonde. C'est une affirmation très générale. La culture dans laquelle nous vivons ne s'intéresse pas à découvrir ce que c'est. Elle s'intéresse à créer ce qu'elle veut qu'elle soit. On parle du pouvoir de la pensée, le pouvoir de la pensée positive. Parce que vous croyez fermement que la chose est ainsi, elle le deviendra. Alors que cette tendance du Nouvel Âge a une sorte de vernis intellectuel. Il ne recherche pas la vérité, ne recherche pas l'objectivité, ne recherche pas la vérité, ne recherche pas les faits. Il s'intéresse à ce que l'on ressent, à l'intuition, à l'expérience. Elle s'intéresse à un pouvoir auto-régénéré. Un auteur du Nouvel Âge qui est très connu est Joseph Campbell, qui est auteur d'un livre intitulé « Le pouvoir du mythe ». La thèse du livre soutient que vous pouvez imaginer qu'une chose est puissante, et elle le devient. Le credo de Campbell s'énonce en trois mots. Suivez votre félicité. Suivez votre félicité. Tout ce qui peut vous rendre heureux, tout bonheur que vous pouvez imaginer, suivez-le. Maintenant, vous devez créer votre réalité dans ce système. Vous devez créer vos propres valeurs. Ce que vous choisissez de créer, avec le pouvoir de votre pensée, que ce soit la puissance de la pensée positive, ou la puissance du choix personnel, que ce soit le pouvoir des mots dits, que ce soit le pouvoir de l'imagination. Ils disent que ce que vous choisissez ne compte pas vraiment, tant que vous le choisissez. Et si vous le choisissez, vous pouvez le réaliser. Le pouvoir spirituel dans votre pensée est la clé pour contrôler la perception. C'est la clé pour contrôler la perception au niveau où vous pouvez percevoir quelque chose si clairement que vous créez la réalité que vous voulez. En d'autres termes, le pouvoir spirituel dans votre pensée règle une perception de ce que vous voulez et nourrir un désir clair et intense en fait une réalité. Votre pensée peut créer. C'est la logique du Nouvel Âge. C'est très répandu de nos jours. Maintenant, dans la poursuite de ce pouvoir interne, il y a une combinaison de quatre choses qui interagissent en quelque sorte, ou quatre idéologies. Permettez que je les partage avec vous. La première est l'évolution. Il y a derrière ceci un principe d'évolution qui stipule que vous pouvez souhaiter qu'une chose soit. C'est fondamentalement l'évolution. Il était une fois un serpent qui voulait voler, et il souhaita avoir des ailes. C'est fondamentalement l'évolution. Il y a quelques pas dans le processus. Mais c'est fondamentalement cela. L'évolution indique aussi que tout ce qui existe est égal. Nous sommes tous dans une longue chaîne. L'homme n'a pas plus d'importance que d'autres choses. il n'est que le dernier résultat du souhait des singes. Il est comme le dernier accident, du moins pour l'instant, mais il n'a pas plus de valeur qu'un rocher, pas plus de valeur qu'un oiseau, pas plus de valeur qu'un chat. Il n'a même pas plus de valeur qu'un arbre, pas plus de valeur qu'un dauphin, parce que c'est l'évolution. L'évolution n'est rien d'autre que ce processus par lequel on souhaite que les choses existent. Alors elles sont venues exister dans une longue chaîne de produits des vœux, à valeurs égales. Et voilà la raison pour laquelle on ne s'intéresse pas particulièrement à l'homme, pas plus qu'à aucune autre partie de la chaîne de l'évolution. Il y a une deuxième idéologie attachée à cette logique du Nouvel Âge. C'est le panthéisme. Puisqu'il n'existe pas de créateur, il n'existe pas de Dieu. La création est elle-même Dieu. Et puisqu'elle s'est elle-même créée, elle est le Dieu de sa création. Et puisque toute chose dans le processus renferme le pouvoir de se créer elle-même, alors elle est Dieu. Ainsi donc le panthéisme voit le seul Dieu comme étant l'énergie qui existe en toute chose. Vous entendez les gens parler du pouvoir de la pyramide. Et certains se promènent avec une pyramide de fer sur leur tête, ou suspendent une pyramide à leur porte de la maison. Ils parlent du pouvoir de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez lu ces choses. Ils parlent du pouvoir du rocher. Toutes ces choses renferment de l'énergie. Voilà ce qu'est le pouvoir de la pensée. C'est le Dieu énergie qui existe en toutes choses. Tout est égal à tout. Tout est Dieu. Par conséquent, tout a un droit à son identité propre. Un droit à avoir son libre cours. Et donc, il doit y avoir des droits de l'homme. Mais il doit y avoir aussi les droits des animaux. Il doit y avoir des droits des arbres. J'ai remarqué dans le journal aujourd'hui qu'un homme voulait couper un sycomore devant sa maison, à la vallée de Santa Clarita. Et la ville est dans un vacarme parce qu'il a pensé à couper un sycomore. Je me permets de demander si les maisons de Santa Clarita sont construites en bois. Toute chose est considérée comme ayant en elle une énergie théiste. Tout est Dieu. Tout a le pouvoir. Tout a de l'énergie et vous devriez vous connecter à cette énergie. Maintenant, nous venons d'avoir la journée de la Terre et à plusieurs reprises, je me suis demandé « Qu'est-ce que la journée de la Terre ?» Et j'ai réalisé ce que c'est. Pour certaines personnes, c'est une promotion de la conscience environnementale, ce qui est sans doute une bonne chose. Nous aimerions tous faire quelque chose pour améliorer notre environnement et pour protéger la création de Dieu, et c'est une très bonne chose. Mais pour ceux qui l'ont orchestré et les fanatiques, la journée de la Terre était basée sur une vision panthéiste et elle disait « Arrêtons le monde et adorons la Terre ». Nous allons tous adorer la Terre. Je me suis vraiment intéressé au fait qu'il y a à la plage une énorme célébration de la journée de la Terre. Et après, tout le monde est parti, mais personne n'a nettoyé l'horrible saleté laissée. La Terre est Dieu. Arrêtons-nous pour adorer la Terre. Que le gouvernement le tolère ne semble pas être un problème. Je ne m'imagine pas ce qui pourrait arriver si quelqu'un décidait d'avoir une journée de Dieu ou une journée de Jésus-Christ. Vous voyez, aucune chose n'a plus de valeur qu'une autre. Sauver la forêt vierge, sauver les baleines, sauver les dauphins, sauver les chênes. Ne tuez pas de chats pour faire des recherches médicales, même si cela pourrait éviter la mort à des milliers de personnes. En fait, pendant que je fais cette analyse, la seule créature vivante à laquelle je peux penser, et qui n'a pas de droit, c'est un fœtus. Toute autre chose a des droits. J'ai entendu dire la nuit dernière qu'il y a maintenant une personne qui est très mécontente que les gens marchent sur les insectes. C'est vrai. Et il y avait toute une masse de ces insectes, et ils essayaient de convaincre les gens que les insectes possèdent une conscience de soi, suffisante pour ne pas aimer qu'on leur marche dessus. Pour moi, c'est incroyablement inconstant, n'est-ce pas, que plusieurs de ces mêmes personnes, qui veulent sauver les arbres et sauver les chats, les baleines et les dauphins, sont les mêmes qui veulent tuer les bébés encore dans le ventre. Aucune chose ne possède plus de valeur qu'une autre, à l'exception des fœtus, qui, eux, n'ont absolument aucune valeur. Du pur pragmatisme. Un bébé va entraver le chemin. Le panthéisme est typique de la religion humaine. Il est très pragmatique. Et le panthéisme doit être abandonné s'il envahit leur hédonisme et leur égocentrisme. Ils restent fidèles à leur religion seulement quand elle ne gêne pas leur style de vie. Il y a une autre composante, une autre idéologie en ceci, en dehors de l'évolution et du panthéisme. C'est ce que nous allons appeler l'amoralisme. Si chaque chose est égale à toute autre chose, et que tout est Dieu, alors tous les comportements sont acceptables, parce que ce n'est que l'énergie de cette religion panthéiste. La seule valeur morale est donc tout ce que vous décidez être moral. Vous êtes votre propre Dieu, et si cela semble bon, Et si cela contient de l'énergie, alors faites-le. Ainsi, nous avons dans notre société une loi morale. Et c'est qu'il n'y a pas de loi morale obligatoire, excepté tout ce que chacun trouve bon pour lui. La moralité, c'est ce que je crée. En dehors de moi-même, il n'existe pas de standard, et tout type de comportement sexuel est parfaitement correct. Si je veux avoir des rapports sexuels avec les gens en dehors du mariage, si je veux être homosexuel, si je veux être impliqué dans la bestialité, et tout dernièrement, il y a une escalade d'un genre des plus bizarres, impensables, inimaginables d'interactions avec les animaux, que je ne peux même pas vous décrire, mais dont je suis au courant par les médecins, qui reçoivent dans les hôpitaux des homosexuels, dans des conditions absolument indescriptibles. Mais voyez-vous, tout va bien, parce qu'il n'existe pas de moralité en dehors de celle que vous vous créez. Et toutes ces choses ne sont aucunement intellectuelles. Les faits, si vous regardez les faits, ils défieront complètement tout cela. Si vous voulez regarder les faits et la réalité, vous ne déboucherez pas avec l'évolution, n'est-ce pas? Les faits réprouvent l'évolution. Si vous voulez regarder la vérité, la réalité et les faits, vous n'affirmerez pas que tout est Dieu, et Dieu est tout. Vous allez présenter le vrai Dieu, si vous devez regarder les faits. Vous n'allez pas concevoir un système de valeurs amorales. Les faits nous prouvent qu'une société amorale finira par se détruire elle-même. C'est une fausse connaissance. C'est du paganisme néognostique. C'est le néognosticisme. Elle se déguise en connaissance, mais ce n'est pas du tout la connaissance. Maintenant, il est fondé sur la quatrième idéologie et la quatrième composante qui est le mysticisme. Le mysticisme est le fondement de tous ces types de pensées que nous avons aujourd'hui dans le Nouvel Âge. Vous dites, qu'est-ce que le mysticisme? Permettez que je vous donne ma définition MacArthur. Le mysticisme est l'ensemble des croyances et idées qui émanent de l'intuition personnelle. Plus, supposer transcender la compréhension ordinaire, c'est cela le mysticisme. C'est un système de croyances et d'idées qui sont le produit de mon intuition personnelle et qui, j'estime, transcende la compréhension ordinaire. Simplement dit, c'est une pure spéculation que l'on croit être une réalité. Une pure spéculation que l'on croit être une réalité. Les systèmes de croyances mystiques sont des collections d'idées nées de l'émotion, nées d'idées auto-identifiées, détachées de faits objectifs ou de l'évidence. Dans ce même journal de notre communauté, cet article a paru la semaine dernière. Dieu s'est révélé à un Canyon Countryman et a fait de lui le leader d'une église dont les péchés des membres sont absous en ayant des rapports sexuels avec les prêtresses de l'église. Dieu lui a parlé dans son bungalow à Santa Monica le 24 avril 1984 et l'a ordonné comme souverain sacrificateur de l'église, après lui avoir expliqué des doctrines à orientation sexuelle. L'article dit ensuite que Wilbur Tracy, puisqu'il s'agit de lui, qui agit lui-même comme avocat du couple, a dit que Dieu lui est apparu sous la forme d'un homme, haut de environ 1,82 m, avec des cheveux blancs et une barbe blanche, entouré par une lumière blanche vive. Il ajoutait que l'homme était élevé. Il était vêtu d'une robe blanche, transparente, ouverte devant. Tracy affirme que Dieu lui a expliqué le but de la vie et la création du monde pendant environ 1 h 30, mais que Tracy avait refusé d'en discuter plus longtemps. « J'ai reçu l'ordre de ne parler à personne des spécificités, dit-il. J'ai reçu l'ordre de n'en parler qu'à ceux qui croient. » Tracy dit qu'il a appris l'importance des rituels sexuels, qui, dit, sont un préalable au pardon du péché. La religion de la déesse est ce que vous pourriez appeler une religion sexuelle. Il a expliqué la vision à son épouse qui a, par la suite, accepté de devenir souveraine prêtresse. Dieu lui a dit que la prêtresse devait avoir des rapports sexuels avec 1000 hommes avant d'accéder à cette fonction. Maintenant, notre culture a d'énormes difficultés à discuter avec ce fou. De sérieuses difficultés. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà permis aux gens d'engendrer dans leurs pensées toutes sortes de réalités imaginaires de leur choix. Ça, c'est la forme finale du mysticisme. D'une part, il pourrait être en train de mentir. D'autre part, il pourrait avoir été en contact avec des êtres démoniaques. Mais c'est aussi possible que cet homme ait fabriqué dans sa tête une sorte de justification auto-authentifiée pour sa convoitise personnelle. Des systèmes de croyances mystiques sont donc puisés à l'intérieur d'une personne. Puisé d'idées et d'émotions, d'auto-authentification, complètement détaché de faits ou d'évidences objectifs. Les partisans du Nouvel Âge vous diront que le yoga, la méditation, et même la musique sans parole du Nouvel Âge provoque cette sorte d'intuition interne. Pas d'objectivité, pas de réalité, uniquement des sentiments internes, subjectifs, irrationnels et intuitifs, qui deviennent des faits. Andrew Greeley raconte ce qui suit comme exemple de ce dont nous parlons. C'est très simple. Un jeune homme troublé écoutait la 9e symphonie de Beethoven, avec un phonographe dans son appartement. Il arrêta la musique et se mit à travailler sur des modalités. Mais il fait quelques progrès. Les doutes, les peurs, les pensées de suicide qui le hantaient reviennent. Alors, à contre-coup, il entend le cantique de Ode to Joy, et quelque chose prend possession de la pièce et de lui. Les doutes, les peurs, les inquiétudes disparaissent à jamais. Le jeune sait qu'il n'y a pas de raison de se soucier. Fin de citation. Maintenant, qu'est-il réellement arrivé dans le temps et l'espace à ce jeune homme? Comment a-t-il su qu'il n'y avait pas de raison de se soucier? Il ne sait pas. Il ne savait pas qu'il n'y avait pas à se soucier. Il ne savait rien. Il n'existe pas de réalité à cela. Vous ne pouvez pas écouter « Ode to Joy » et conclure « Oh, je n'ai pas à me faire de soucis ». « Ode to Joy » a provoqué en lui un mouvement, en lui, qui était émotionnel. Dans cette émotion, il avait un sentiment de bien-être. Il traduisit ses sentiments de bien-être en réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Ce sentiment de bien-être de ce jeune homme ne signifiait pas qu'on ne le retrouverait pas mort dans 24 heures. Il ne signifiait absolument rien. Les gens viennent et disent « Bien, vous pouvez accomplir la guérison avec votre pensée. Oh, comment cela fonctionne-t-il? Je peux me dire à moi-même que je suis guéri. Je peux me dire que je ne serai jamais malade. Mais ce n'est que mon imagination. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Les virus ne savent pas que je l'ai dit. Et même s'ils le savaient, rien n'indique qu'ils ne continueront pas à faire ce qu'ils voulaient faire. Ce n'est pas la connaissance. Une telle expérience interne, subjective, ne pourvoit aucune connaissance, aucune réalité. Et pire, elle pourvoit une fausse illusion qui devient un faux espoir. Connaître une chose, c'est avoir des faits précis de la réalité. Alors vous la connaissez. À ce moment-là, vous la connaissez. Vous savez. Nous nous limitons pour ceci. Quelquefois nous disons « Bon, je pense que tout ira bien. Mais comment le savez-vous? Bon, je ressens tout en quelque sorte. Vous n'en savez rien. C'est une illusion provoquée par votre propre pensée. C'est du mysticisme. Et cela peut tout concocter. Un système de croyance, un système de religion, un système de guérison, n'importe quoi. » Arthur Johnson, dans son livre très intéressant, « Fate Misguided, la foi erronée », écrit « Il y a deux types de mysticisme que nous devons reconnaître pour éviter la confusion. Premièrement, il y a un aspect psychologique, souvent appelé l'expérience mystique, qui est un événement complètement à l'intérieur d'une personne, totalement subjective et facilement contrefaite. J'ai ajouté cette partie. Puis il dit, ensuite, il y a les croyances qui émanent de cette expérience. Les croyances religieuses, philosophiques, constitue une série d'idées collectivement appelées mysticisme. Maintenant, ce qui m'effraie, c'est que ceci a entièrement envahi l'Église. C'est entré dans l'Église d'abord à travers le mouvement charismatique, où les gens créent une supposée réalité illusoire par leur imagination, qui n'ont rien à voir avec les faits. Il n'y a aucun doute que de telles choses existaient à l'époque de Pierre. Pas surprenant que Pierre écrive aux Églises qui étaient confrontées à cette sorte de croyance que vous pouvez transcender le naturel, que vous pouvez transcender l'objectivité, vous pouvez dépasser la compréhension normale. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne n'est pas mystique. La vie chrétienne est totalement, absolument et complètement contraire à tout ce qui est mystique, contraire à la croyance de sensations imaginaires. Le christianisme croit une vérité divine objective, historique, révélée, actuelle et rationnelle. Vous devez comprendre cela. Le mystique rejette la raison pour embrasser l'expérience. Et la ligne entre la vérité et le mensonge est effacée. Alors le mystique lit la Bible, et elle est vraie. Et il a une expérience, et elle est vraie. Et la vérité et le mensonge chevauchent. Le mensonge basique du mysticisme est que mes sentiments internes me disent la vérité sur ce qui est. Ce qui n'est pas vrai. Mes sentiments internes ne me disent pas la vérité sur la réalité. Ce n'est pas vrai. Il n'en est pas ainsi. Ce qui est vraiment ahurissant à ce sujet, c'est que là se trouve dans l'Église, et tout à coup, au lieu que le christianisme soit une vérité divine objective, historique, révélée, actuelle et rationnelle, Il est littéralement devenu un méli-mélo de vérités révélées, d'intuitions et d'expériences. Le mouvement charismatique contemporain est plein de ce genre de choses. Les gens disent « Bien, le Seigneur m'a montré dans mon cœur que telle chose n'arrivera pas. Ah bon ? Cela n'a rien à voir avec le fait que la chose arrivera ou non. Le Seigneur m'a montré dans mon cœur que telle chose n'arrivera pas. Oh ! Cela n'a rien à voir avec. Maintenant, ce sont des formes légères. Une forme plus forte est celui qui est communément appelé la confession positive. Nous avons mentionné Kenneth Hagan, Kenneth Copeland, Frederick Price, Robert Tilton, quelques personnes de ce genre, Paul Crouch, Oral Roberts, des personnes de ce genre qui disent que si vous le verbalisez, si vous le dites et si votre pensée le conjure et vous l'affirmez positivement, vous le créerez. Cela s'appelle le mysticisme sous-chrétien, pas le christianisme. Une autre de ces formes qui est récente s'appelle la visualisation. La visualisation. Ceci passe d'une technique de conseil psychologique à une situation religieuse, avec plusieurs dans le mouvement charismatique. L'homme qui est connu aujourd'hui comme le pasteur de la plus grande église au monde est un homme appelé Paul Yonggi Cho, C-H-O. Son église, la plus grande du monde, est située dans la ville de Séoul, en Corée. Et Yonggi Cho est très versé dans la visualisation, dans l'idée que l'on peut créer la réalité avec sa pensée, si on la visualise. Dave Hunt, bien sûr, l'a confronté dans son livre « The Seduction of Christianity », la séduction du christianisme. Juste en guise de petit rafraîchissement, permettez que je vous informe sur cet homme, qui est le pasteur de la plus grande église au monde et qui a une position centrale dans le mouvement charismatique aujourd'hui. Voici ce que Dave Hunt indique. Toute personne qui s'imagine que parce qu'elle se fait certaines pensées ou dit certains mots, Dieu doit répondre d'une certaine façon, a glissé dans la sorcellerie, et s'il ne joue pas à être Dieu, est au minimum en train d'essayer de manipuler Dieu. Le pasteur Cho déclare, par la parole dite, c'est une citation, par la parole prononcée, nous créons notre univers de circonstances, vous créez la présence de Jésus par votre bouche, il est lié par vos lèvres et vos paroles. Fin de citation. Cho déclare que c'est par la puissance de l'imagination que Dieu a créé le monde. Ceci se trouve dans son livre intitulé « La quatrième dimension » que j'ai lu. Il affirme que Dieu a créé le monde par l'imagination, et parce que l'homme est un esprit de la quatrième dimension comme Dieu, lui aussi, écoutez ceci, occultiste ou chrétien, peut créer son propre monde par la puissance de l'imagination. Les occultistes savent depuis longtemps que la visualisation est le moyen le plus puissant de puiser dans la dimension spirituelle, dit Cho. Que vous soyez occultiste ou chrétien, vous pouvez utiliser votre imagination pour créer votre propre monde. Il n'est indiqué nulle part dans la Bible, même pas implicitement, que le peuple de Dieu doit utiliser les mêmes méthodes ou la puissance que les païens. Cependant, le pasteur Cho ne dit pas seulement que les miracles doivent se conformer à la loi de la quatrième dimension, mais encore que quiconque, y compris les occultistes, peuvent accomplir la loi de la quatrième dimension et opérer des miracles. Néanmoins, le pasteur Cho nous assure qu'il a appris ceci du Saint-Esprit quand il avait demandé dans la prière pourquoi les occultistes pouvaient opérer des miracles exactement comme les chrétiens. En fait, Cho loue les occultistes bouddhistes japonais, le Soka Gakki, d'opérer des miracles en visualisant une image de prospérité, en répétant des expressions encore et encore, et en développant la quatrième dimension spirituelle de l'homme. Et il reproche aux chrétiens de ne pas faire la même chose. Il dit qu'ils le font dans le mouvement occulte. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Il croit que vous pouvez créer votre propre réalité. Plus loin, même s'il ne le réalise probablement pas, le pasteur Cho, dit Dave Hunt, a exposé une théorie occulte de base, une apologétique pour la religion de la nature, ou la sorcellerie. Il dit que parce que Dieu inclut l'univers physique entier, il peut donc créer la matière par lui-même. Comment le fait-il? Par incubation, ce qui est le terme de Cho pour la visualisation. La Bible ne suggère pas, encore moins elle n'enseigne pas que Dieu crée par quelque technique, que ce soit la visualisation ou autre chose. Ceci introduit la délusion que si, d'une certaine façon, nous pouvons utiliser la même technique, nous pouvons faire ce que Dieu fait. Par conséquent, l'erreur suivante dans le processus de raisonnement de Cho est, si possible, même pire que ses prédécesseurs. Parce que l'homme est aussi un esprit de la quatrième dimension, nous pouvons aussi visualiser, incuber et créer la réalité, tout comme Dieu. Dans la suite de la quatrième dimension, le pasteur Cho écrit, et je cite, « Nous devons apprendre à visualiser et à rêver l'exaucement comme fait quand nous allons vers le Seigneur dans la prière. Nous devons toujours apprendre à visualiser le résultat final quand nous prions. De cette façon, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons incuber ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. L'important est de savoir la puissance de la visualisation. » Fin de citation. Quand vous regardez ces gens en Corée, et nous sommes si impressionnés par leur long moment de prière, réalisez, chers amis, qu'ils ne prient pas comme vous et moi prions en recherchant la volonté de Dieu. Ils prient en suivant un processus très occulte, une visualisation, et en essayant par la visualisation de créer leur propre réalité, pour se faire eux-mêmes Dieu. Si la visualisation était si importante, la Bible aurait quelque chose à dire dessus. Mais elle ne dit absolument rien à son sujet. Elle est mystique. Maintenant, un qui suit l'approche fantaisiste de Shaw et sa confusion est devenu très proéminent. Il s'appelle John Wimber. Il a commencé à enseigner une classe au séminaire de Fuller sur les techniques de guérison et des choses semblables. Il a fondé un groupe d'églises connu sous l'appellation Vineyard Fellowships. Il voyage de par le monde en ce moment. Vous pouvez l'écouter au canal 40 de votre région. Il pousse le mouvement à retourner au mysticisme, la clairvoyance, la perception extrasensorielle, le pouvoir de la pensée, les transes, l'hypnose de masse, les visions. Toutes ces choses sont des techniques de guérison des cultes orientaux. Et elles ont toutes une place dans le nouveau mouvement du renouveau charismatique, particulièrement dans la méthodologie de ce guérisseur américain, appelé John Wimber. La réforme a rendu au peuple sa pensée. Pendant l'âge sombre, l'Église catholique romaine était devenue très mystique. La réforme a rendu au peuple sa pensée. La réforme a balayé la superstition. La réforme avait aboli le mysticisme et rétabli la pensée rationnelle. Et le nouveau mouvement charismatique ramène la confusion et la servitude, le non-rationalisme et l'aspect non-intellectuel du mysticisme. Jonathan Edwards avait écrit, je cite, « Prenez garde de vivre votre vie suivant les impressions. » Fin de citation. Et c'est précisément ce que cette charismanie défend. John Wimber et les autres du mouvement charismatique croient qu'ils peuvent revivre les jours miraculeux des apôtres et Jésus. Mais le fait qu'ils sont tombés dans un mysticisme non apostolique et sous-chrétien, vulnérable à la séduction de Satan, est plus proche de l'hindouisme que de la Bible. Permettez que je sois spécifique. John Wimber reconnaît que les pécheurs doivent entendre une présentation rationnelle de l'Évangile pour être sauvés. Pourtant, il croit que la puissance qui amènera les gens dans le royaume n'est pas le Saint-Esprit qui assiste invisiblement la parole pendant qu'elle pénètre la pensée des gens. La puissance qui produit le salut viendrait plutôt de l'expérience de la présence de Dieu, pendant que les chrétiens exercent des pouvoirs surnaturels et opèrent des signes et des prodiges. Écoutez ce qui suit. Cela est au cœur, bien sûr, de l'arminianisme, la croyance qui veut que les gens viennent au salut parce qu'ils sont convaincus, plutôt qu'à la suite d'une opération divine. Et ce qu'il dit, c'est que le salut, la puissance du salut, n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit par la parole dans le cœur. La puissance du salut provient de la capacité de l'orateur à être très convaincant et très dramatique, parce qu'il peut faire tous ces miracles et que cela dépasse les gens. La résistance des pécheurs à l'Évangile est ôtée, dit-il, par des rencontres de puissance. Alors il appelle cela une évangélisation de puissance. C'est le titre de son livre. Et ces rencontres de puissance choquent littéralement les gens, les épatent, elles transcendent la pensée. Elles sont inexplicables, elles sont non rationnelles. Alors pour le salut, ce n'est pas l'esprit qui illumine la pensée pendant qu'elle reçoit la vérité, mais plutôt une puissance qui fait exploser dans les gens quelque chose d'irrationnel, d'inexplicable, de miraculeux. Et ça, c'est plus efficace. En fait, c'est ce qui le produit. Voilà pourquoi ils disent que l'évangile simple ne suffit pas. Vous devez avoir des signes et des prodiges. Parce qu'ils n'affirment pas que la vérité dans la puissance de l'esprit change un cœur. Ils croient qu'alors que la vérité doit être là, c'est l'énergie dans le messager qui affecte le théâtre, qui amène les gens à la conviction. La puissance qui rend la prédication évangélique efficace vient donc des miracles qui accompagnent la parole et non de la parole elle-même. Le mysticisme prône que les gens sont sauvés grâce à des rencontres de puissance, avec des miracles. Mais que disent les Écritures? Carrément l'opposé. Tout ce que vous devez faire, c'est retourner regarder la vie de Christ. Il allait dans toute la Palestine, opérant miracle après miracle après miracle après miracle. À la fin, que lui firent-ils? Ils le tuèrent. Jean 2:23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Pourquoi? À la vue des miracles qu'il faisait. Certes, ils étaient attirés par des signes. Ils croyaient qu'ils venaient de Dieu. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Certes, il croyait. Mais il ne croyait pas pourquoi? Pour le salut. Certes, il disait, « Oh, waouh! C'est surnaturel, ça! Il vient de Dieu! » Cela ne les avait pas sauvés. Ils n'avaient pas d'autre explication. C'était une croyance superficielle. Ce n'était pas le salut. Lisez Jean 4:48. Jésus les condamne. Il dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. Même type de foi superficielle qui ne sauve pas. Vous devez croire les signes et les prodiges. » Mais cela n'a pas changé leur cœur, parce que seul le Saint-Esprit peut changer les cœurs. Lisez Jean 6:2. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Certes, les miracles attiraient une foule. Verset 28. Après avoir vu ces signes et prodiges, et le moyen miraculeux par lequel Jésus les avait nourris, ils lui dirent, verset 28, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Que ferons-nous pour faire ces œuvres? C'est fantastique !» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? » C'est une déclaration incroyable. Cette même foule l'a vu guérir les gens pendant toute la journée. C'est la même foule qui venait de manger la nourriture qu'il avait créée, et disent, « Fais un autre signe, afin que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu? » C'est incroyable. Non, les signes produisent une curiosité très superficielle, et ils peuvent convaincre que celui qui les fait est un être surnaturel. Le signe seul ne sauve pas. En fait, pour vous montrer le caractère de ces gens, allez à la fin du chapitre, verset 66. Certains d'entre eux avaient commencé à le suivre. Quand son message devint clair, le verset 66 dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. » Le verset 63 le résume. « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça, c'est l'objectivité, mes amis. C'est la vérité révélée, rationnelle. Vous seriez peut-être intéressés de savoir que Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracle. Et Jean-Baptiste était le plus grand prophète à avoir vécu jusqu'à son époque. Il n'avait pas fait de miracle, aucun. La puissance pour faire des miracles ne sauve pas. Il faut que cela soit clair. Le passage que je regardais, Jean 10:41, dit que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Maintenant, comment une personne se convertit-elle donc? Regardez Romains 10:17. Romains 10:17. Écoutez ceci. Ainsi donc la foi qui sauve, vient des miracles. Est-ce cela? Elle vient des signes et des prodiges. Non. Elle vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ils doivent entendre. Retournez au verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Ils ont besoin d'un prédicateur, pas d'un faiseur de miracles. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Écoutez ce que je dis. L'objectif de la puissance miraculeuse de Jésus et des apôtres n'était pas de sauver les gens. C'est l'œuvre miraculeuse de l'Esprit lors de la régénération. C'est une toute autre chose. Écoutez attentivement. La puissance miraculeuse de Jésus et la puissance miraculeuse des apôtres n'avaient pas pour objectif de sauver les gens, mais d'authentifier le prédicateur. C'est très, très important. Vous avez 10 personnes qui entrent dans la ville et elles disent chacune « Je parle de la part de Dieu. Lequel croirez-vous? Celui qui a la puissance miraculeuse, mais c'est la vérité qu'il prêche qui sauve. Le miracle n'est là que pour vous convaincre qu'il dit la vérité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible pour le tester à sa lumière. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de miracle aujourd'hui. Je peux vous dire, en écoutant une personne, si elle dit la vérité, je n'ai pas besoin de miracle. Je n'ai que ce livre. Je vais le comparer à ceci, d'accord? Les miracles n'ont jamais eu pour intention de sauver les gens. Les miracles avaient pour objectif d'authentifier les messagers. Et les messagers sont maintenant authentifiés par leur attachement à la parole de Dieu, ce qui est une situation très intéressante. Vous avez quelqu'un, comme John Wimber, qui cherche à s'authentifier par des miracles, tout en violant la seule source d'authentification qui existe, la Bible. Les signes n'ont jamais été destinés à faire œuvrer l'Évangile dans le cœur d'une personne. Ils n'ont jamais été destinés à activer la foi salvatrice. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il devait authentifier le prédicateur, pour permettre aux gens de savoir s'il était de Dieu, afin qu'ils croient. Jésus n'est pas venu guérir les gens afin de les amener à être sauvés. Il est venu guérir ceux qui le reconnaissaient comme messager de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une authentification répétée. Nous devons seulement prêcher la parole authentique. Alors, toutes ces histoires de guérison, qui seraient absolument nécessaires pour amener les gens au salut, passent à côté. Plus encore, John Wimber minimise la vérité rationnelle. Il minimise la connaissance. Il minimise la réflexion. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit que la pensée occidentale est très rationnelle, et nous devons adopter l'ouverture orientale au mystique et au spirituel. Il nous invite à un paradigme du tiers-monde. C'est un terme que lui et Peter Wagner de Fuller Seminary utilisent. Nous devons nous rappeler, je cite, que la Bible avait été écrite au Moyen-Orient, pas avec une supposition rationnelle, mais une supposition expérimentale. Fin de citation. Cela n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. La Bible avait été écrite au Moyen-Orient. Mais dites-vous que tout le monde au Moyen-Orient et ceux qui avaient été inspirés par Dieu opéraient sur une base mystique? Ridicule. La Bible n'a pas été écrite sur la base de suppositions expérimentales, mais sur une supposition rationnelle. Le Moyen-Orient n'était pas mystique. Dieu n'est pas mystique, encore moins les auteurs de la Bible. Plus loin, il dit dans un enregistrement: quand verrons-nous une génération qui n'essaie pas de comprendre ce livre, mais qui le croit simplement? Maintenant, ceci est une phrase du mysticisme. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une approche rationnelle. Vous devez juste le croire mystiquement. Ils survolent donc la Bible pour trouver des textes, pour affirmer leur expérience et leur mysticisme. À la réunion de la Société de théologie évangélique, John Wimber dit: nous développons maintenant une théologie pour les choses que nous faisons. Vous voyez, la vérité émane de l'intuition, et vous avez toutes ces expériences et intuitions qui flottent partout, et nous essayons de voir comment les constituer en théologie. C'est totalement l'inverse. Vous commencez avec les Écritures, vous interprétez les Écritures. Les Écritures vous donnent une théorie par laquelle vous évaluez l'expérience. John Wimber minimise la prédication. Nous supposons qu'il le ferait parce que c'est cognitif. Dans Power Evangelism, l'évangélisation par la puissance, Wimber va jusqu'à dire que certaines prédications sont ennuyeuses. Il se réjouit ouvertement du fait que le mouvement charismatique a évincé la prédication dans son rôle central dans l'adoration. Wimber, en tant que musicien de jazz professionnel avant sa conversion, affirme qu'il se réjouit de voir la danse, le théâtre, les hymnes innovés et le chant en langue diminuer la place de la prédication. Bien sûr, parce que l'on prêche des faits. La prédication, c'est le contenu. L'évangéliste de puissance prétend plus loin que la croissance de l'Église survient rarement par le seul fait de la prédication, que ce soit dans les temps bibliques ou dans l'histoire subséquente de l'Église. Les signes et les prodiges sont catalyseurs de l'évangélisation, et ils sont retournés à cela. En plus de ces déséquilibres, les évangélistes de puissance partagent avec d'autres charismatiques une attitude non critique vis-à-vis des gens qui prétendent être des prophètes de Dieu aujourd'hui, et ceci conduit à un autre problème. Si vous prenez ceci comme votre approche de la vérité, alors qui pouvez-vous remettre en question, n'est-ce pas? Parce que si ce gars dit « J'ai vu un Jésus haut de 1m84 et il m'a dit d'ouvrir une religion dans laquelle vos péchés sont absous au moyen du sexe », sur quelle base puis-je dire que cet homme a tort? C'est son expérience. En fait, John Wimber dit, et je cite: je suis une personne qui aime avoir l'expérience, voyager. C'est une chose très dangereuse, très dangereuse. La croissance rapide de ce mouvement est un autre volet, je crois, d'une réaction culturelle au naturalisme, une réaction qui produit une nouvelle fascination avec le surnaturel. Le Nouvel Âge capitalise sur ce point, et ces pauvres et tristes personnes en deviennent des proies. Ils ont adopté la guérison intérieure occulte, l'expérience mystique, quelquefois même ils se lient avec les catholiques romains, qui sont dans les mêmes pratiques. Une citation intéressante de V. Scott dans le magazine Passeport. Si les guérisseurs internes catholiques ont un succès remarquable à mener les gens à visualiser la Vierge Marie, pourquoi se préoccuper de Jésus? R.C. Sproul appelle ceci « le christianisme sensuel ». Citation « Le nouveau chrétien voluptueux n'a pas besoin d'étudier la parole de Dieu, parce que par ses sens, il connaît déjà la volonté de Dieu. Il ne veut pas connaître Dieu, il veut l'expérimenter. » Fin de citation. C'est très caractéristique du mouvement charismatique. Pendant que d'une part ils affirment la vérité des Écritures, et il y a plusieurs passages qu'ils comprennent et croient, et ils génèrent aussi leur perception de l'interprétation de cette parole révélée, ils génèrent aussi leur perception de la vie à partir de leurs expériences. Et comme je l'ai dit au début, la ligne est effacée, et la chose est donc floue. Wimber lui-même bat campagne pour un changement de la perception, pour transformer la vue du christianisme historique au mysticisme oriental. Et encore une fois, c'est un nouveau mysticisme gnostique païen qui détrône la raison, disent-ils, afin que l'âme soit libre. Mais que dit Dieu? Bien, tout cela pour vous ramener au verset 2 de 2 Pierre 1. Et si vous ne comprenez pas ce verset maintenant, alors vous n'écoutiez pas. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'expérience. Est-ce ce qu'il dit? Par quoi? La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Nous retournons à notre première pensée. La grâce et la paix viennent dans des flots infinis, larges, abondants pour ceux qui connaissent Dieu et qui connaissent Jésus notre Seigneur. Écoutez, Pierre, souvenez-vous, nous enseigne à affronter les faux docteurs. Au chapitre 2, il présente ses faux docteurs. Au chapitre 1 et 3, il parle de nos défenses. La première défense est connaître notre salut, et c'est ce qu'il aborde ici au chapitre 1. La dernière fois, nous avons dit que nous devons connaître la source de notre salut, c'est Dieu. Maintenant, au verset 2, nous devons connaître la substance de notre salut. La substance. Commençons à la fin et retournons dans ce verset. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par. Pouvait être en. Par la connaissance ou en la connaissance. Indique la sphère. Le mot connaissance, écoutez attentivement. Et épignosis. C'est une forme fortifiée de gnosis. Il implique une connaissance personnelle complète. C'est le plus fort de deux mots. Nous pourrions dire que gnosis est une forme basique de l'information. Épignosis désignerait une connaissance pleine, exacte, riche, intime. Quelquefois, épignosis semble avoir une signification très spéciale et unique. Mais vous ne pouvez pas nécessairement l'attribuer au salut. La connaissance mentionnée dans Hébreux 10, 26 et 2 Pierre 2, 20 était une connaissance qui ne sauvait pas, et dans les deux cas, c'est épignosis, et donc vous ne voulez pas dire grand-chose par ce mot, mais il ne tend pas à transmettre l'idée d'une connaissance parfaite. La plupart de ces usages montrent la connaissance qui sauve. Il a généralement l'idée d'une connaissance réelle, complète, profonde, qui implique une compréhension intime. Paul aime s'en servir dans les épîtres pastorales, et il s'en sert en rapport avec la vérité. Dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, il parle de la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. 1, 2, 3, 4, 5 fois. La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. La substance de notre salut, bien-aimé, et la connaissance de la vérité. Elle est empirique, objective. Rationnel. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas devenir chrétien avant d'avoir entendu la vérité sur Jésus-Christ. Romains 10, 17. La Bible dit que votre cœur mentira, votre cœur vous trompera, vos émotions vous tromperont. La vérité n'est pas en nous. La vérité est en dehors de nous. Un homme est un fou, et non seulement il ne comprend pas les objectifs et la puissance du salut, il ne comprend pas la dépravation. S'il pense que l'homme peut créer la vérité divine dans son cœur déchu, la substance du salut n'est pas basée sur l'intuition, elle n'est pas basée sur l'émotion, elle n'est pas basée sur l'expérience, elle est basée sur la vérité révélée, la connaissance de la vérité. Mais Pierre va plus loin. La vérité ne vient pas des envies irrationnelles. Il dit que ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité, comme Paul l'appelle. Mais ici, il dit que c'est la connaissance d'une personne, de deux personnes, Dieu et Jésus notre Seigneur, la substance de notre salut. Nous connaissons Dieu par la connaissance de Jésus, n'est-ce pas? C'est la connaissance. Nous connaissons la vérité, et nous connaissons la personne qui avait révélé la vérité. Je suis sûr que Pierre avait eu cette merveilleuse expression, la connaissance de Dieu, de ses études de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament utilise le concept de connaître le Seigneur encore et encore et encore. Pharaon est cité dans Exode 5:2 en ces termes, « Je ne connais point l'Éternel. » Juge 2:10 parle de toute une génération de personnes qui ne connaissaient pas l'Éternel. 1 Samuel 2:12 décrit les enfants d'Élie comme corrompus parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Osée décrit le peuple comme possédant l'esprit de prostitution et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Osée rapporte que Dieu avait dit « Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel ». Proverbe 2:5 dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu ». C'est un concept de l'Ancien Testament. La relation de l'homme avec Dieu n'est pas décrite comme connaître la vérité au sujet de Dieu, mais c'est connaître Dieu par sa vérité. J'aurais aimé avoir le temps de bien le développer. Voilà pourquoi, à la fin de son épître, dans 2 Pierre 3:18, il dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, la substance de notre salut n'est pas mystique. La substance de notre salut consiste à connaître le Dieu de la vérité, le Christ de la vérité. Et la vérité qu'ils ont révélée, il n'y a pas de place pour une pensée passive, il n'y a pas de place pour le mysticisme, l'imagination, la visualisation ou aucune de ces autres choses. Continuons notre voyage retour au verset « Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Voilà la réalité. Nous vivons dans la grâce. Romains 5 dit que nous avons la paix avec Dieu dans la sphère de grâce. La grâce, c'est charis. La faveur gratuite imméritée pour les pécheurs, leur accordant un pardon total par Jésus-Christ, éternellement. Avez-vous compris cette affirmation? La grâce est la faveur gratuite, imméritée pour les pécheurs, leur accordant le pardon total en Jésus-Christ, éternellement. La paix, eirene, est l'effet de la grâce. C'est l'état de la bénédiction qui découle du pardon accordé par Christ. Vous soyez multipliés, est un souhait. Mon souhait à votre égard. Et c'est une réalité, et que, dans une abondance toujours croissante et plus grande, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Lorsque la connaissance véritable, authentique, intime de la vérité de Dieu et Christ croît par la parole, il y a une multiplication des bénédictions de la grâce et de la paix, plus de grâce pour chaque péché, plus de grâce pour chaque faiblesse, plus de paix pour chaque tentation, plus de paix pour chaque épreuve. Ainsi donc, bien-aimés, nous devons comprendre notre salut pour pouvoir faire face à la fausse doctrine. Comme ce qui se dit là-dehors, vous devez savoir que Dieu est la source de votre salut, et la substance de votre salut, c'est la connaissance. La connaissance! Cela vous aidera à revêtir ce que Paul appelle, dans 1 Thessaloniciens 5:8, le casque du salut. Pouvons-nous baisser ensemble les têtes et faire la prière de clôture? Père, nous avons fait un voyage intéressant d'idées ce soir. Depuis ce qui est mauvais jusqu'à ce qui est juste. Nous te remercions de nous avoir donné une parole claire, et tu ne nous as pas abandonnés à la tromperie de notre propre cœur, qui est trompeur par-dessus tout, comme le dit Jérémie. Merci de nous avoir révélé ta vérité. Et tu ne nous as pas seulement révélé ta vérité, mais tu nous as donné un enseignant de la vérité qui réside en nous, en la personne du Saint-Esprit. Père, puissions-nous bâtir nos vies sur la vérité et sur la connaissance, qui est la substance de notre salut, la connaissance de la vérité, et le Dieu de la vérité, et le Christ qui a dit qu'il était la vérité. Puissions-nous connaître l'abondante multiplication de toute grâce et toute paix, et qu'ainsi, comprenant notre salut, nous puissions tenir contre les erreurs de notre temps. Nous te remercions au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.